embouteillage sur le canal 72. 7-2.
Bernard Malaret, parle-moi de tes débuts à Delta Voile.
Alors moi, ce que j'étais en train de te dire, c'est que je suis arrivé chez Delta Voile, ça faisait... Je suis arrivé à 23 ans chez Delta Voile, moi. Je sortais du service militaire. J'étais sorti la veille. Et moi, Delta Voile, j'y suis arrivé par la passion du dessin des voiles que j'ai contracté très tôt. Moi, j'avais 15 ans, je dessinais des voiles. Et je faisais des maquettes de voiles, tu vois, je cherchais. Et à l'époque, on n'avait pas les logiciels qu'on a maintenant. À l'époque, la voilerie, c'était un monde un peu occulte. On appelait des maîtres voiliers. Et rentrer dans une voilerie, à l'époque, c'était juste impossible, tu vois. Et moi, je comprenais pas du tout ce qui s'y passait. Et comme j'avais une formation, après quand j'ai grandi, j'avais une formation un peu maths et un peu technique, je me suis mis à réfléchir à la manière de dessiner des voiles de manière un peu plus géométrique, on va dire. Et c'est ce qui a attiré à l'époque le responsable de Delta Voile, qui venait de créer Delta Voile, et qui a été intéressé par une candidature de quelqu'un qui savait faire du bateau et qui savait calculer. Donc c'est comme ça que je suis arrivé chez Delta Voile, et à ce moment-là, sont arrivés les premiers logiciels sur le marché. Et moi, j'ai bien connu la transition où on dessinait des voiles. Bon, les premières voiles que j'ai dessinées, je mettais des pinces et des ronds de guinant. Je faisais tout à l'œil. J'avais l'habitude de dire, là, il faut une pince de 3 cm, là, il faut une pince d'1 cm, là, il faut un rond de guinant de 2. J'avais l'habitude de ça, je savais faire ça. Et petit à petit, on a transformé ces données un peu empiriques en véritables modèles, modeleurs, on va dire, modeleurs de voiles. Ça s'appelle comme ça en fait, c'est un modeleur, c'est-à-dire que tu transfères des formes de voiles que tu vois avec les bandes de visu par exemple. Alors il y a des sections sur la voile, tu vois ça et tu transformes ça en une surface en 3D que l'ordinateur et les logiciels permettent de découper en panneaux avec des courbes qui, assemblées entre elles, redonnent la forme. Donc, tout le travail maintenant. On va dire que avant, le maître voilier, il décidait des pinces et il décidait des ronds de guinant. Et il avait comme ça une forme qu'il maîtrisait pas trop finalement. Alors que maintenant, le designer, il décide davantage de ce qu'il veut avoir en termes de volume de voile sur des critères qui sont ceux de son expérience ou ceux de calcul aérodynamique. Et l'ordinateur, lui, calcule les pinces. Alors, les designers, en général, ils vont jeter un coup d'œil sur les pinces parce qu'ils veulent quand même contrôler ce qui se passe, mais la démarche est un petit peu inversée, malgré tout. Et moi, je fais partie des... Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que la plupart des voileries, dont Delta Voile, mais la plupart des voileries françaises, elles sont toutes montées sur le même modèle, c'est-à-dire des gens comme moi qui sont venus par la course. Parce que quand tu fais de la course, tu sais vite qu'il faut des bonnes voiles. Donc t'as vite envie de comprendre comment ça marche et à un moment donné t'as vite envie de te les fabriquer toi-même, tu vois, pour être sûr qu'elles soient bonnes. Et donc moi j'ai vite intégré cette dynamique-là. Et la plupart des voileries françaises aujourd'hui, avec des gars de ma génération, on est tous arrivés à la voilerie de cette façon-là. Et là, on est en train d'assister à une transition très très importante. C'est que les voileries, la plupart des gens de mon âge, ils sont autour de la soixantaine, ils sont en train de quitter ce monde du travail. Et les voileries sont vendues soit à des groupes industriels comme le nôtre, par exemple, Incidence. Nous, on fait partie maintenant du groupe Incidence. Et on a été racheté par des gens qui sont généralement des gens qui savent de quoi il s'agit de bateaux. Ils savent ce que ce sont les bateaux, mais ils n'ont pas forcément cette connaissance du métier de la voilerie. Et donc, on voit arriver maintenant dans les voileries des véritables bureaux d'études dans lesquels on trouve des ingénieurs qui se sont formés, qui sont arrivés, je dirais, à la voilerie, en général malgré tout par la régate, mais aussi par la formation d'ingénieurs et des choses comme ça. Et on trouve aussi des voileries dans lesquelles les gens ne savent pas du tout faire des voiles, qui ont été rachetées par des gens qui ne savent pas faire des voiles et qui font appel à des bureaux d'études extérieurs. Ça existe aussi.
Les voileries, Delta Voile, par exemple, vous avez vos moules numériques, tu me disais. Qui sont en gros vos formes privilégiées, mais après vous allez les adapter à différents types de bateaux.
Alors en fait,
de carène.
Ce qu'il faut savoir, c'est que un logiciel de voilerie, c'est ce qu'on appelle un modeleur. Un modeleur, c'est quelque chose qui te permet en 3D de définir qui te permet par des paramètres de définir une forme en 3D. Et alors le jeu du designer, c'est de créer ces modèles, de les adapter aux formes des bateaux, de les stocker, de les ranger et d'aller les chercher à chaque fois qu'il pensera que telle forme de bateau va, que telle forme de voile va bien correspondre à tel type de bateau. Je prends l'exemple, on est à la taille des transquadras, en ce moment on en parle beaucoup. Bon, et ben, entre un JPK 1010, un JPK 1030, un Sunfast 3002, un Sunfast 3003, un J99, il y a des choses qui sont communes et il y a des spécificités. Parce que tel bateau va être plus à l'aise au près qu'un autre, parce qu'un tel bateau aura un peu plus de déplacement, une étrave plus ou moins fine. Donc il y a pas mal de petits paramètres qui vont catégoriser, caractériser plutôt le comportement du bateau. Et en fonction du comportement prévisible du bateau, on va se dire, ce bateau, il vaut mieux qu'il ait une voile comme ça ou comme ça. Par exemple, un bateau qui va être très peu voilé, on va lui dire, on va mettre des voiles plus puissantes. Un bateau qui sera très très toilé, on va faire des voiles un petit peu plus fines pour pas que ça agite trop vite. Surtout s'il n'est pas très raide à la toile. Un bateau très raide à la toile n'aura pas les mêmes voiles qu'un bateau très peu raide à la toile. Donc on essaie d'intégrer tous ces paramètres-là et d'y répondre par des formes de voiles adaptées. Et encore une fois, des formes de voiles, on peut très bien se dire, le génois qu'on a fait pour tel bateau, là, cette fois-ci, ben, il irait bien sur tel autre parce qu'ils ont des caractéristiques qui sont proches.
Ça, c'est un peu intuitif. Il n'y a pas une base de données où tu...
Nous, on a des bases de données et je dirais que ce cerveau, ça reste un cerveau humain. On pourrait tout à fait imaginer et très facilement imaginer que l'on puisse paramétrer les formes de voile, la manière dont sont rangées les moules, en fonction de paramètres caractérisant les carènes. On pourrait tout à fait dire tel déplacement, tel rapport de puissance, tel allongement de voile, tel rapport de voilure par rapport au déplacement, c'est tel moule. Ça, s'il fallait vraiment passer par ça, on saurait le faire. Mais aujourd'hui, on continue à avoir confiance au cerveau humain. Et voilà, nous chez nous, il y a une personne qui dessine toutes ces voiles-là. Et c'est son métier d'intégrer tout ça.
Si cette personne part à la concurrence demain, ce qui peut faire partie éventuellement du jeu, tu perds de la matière.
Oui, après, chaque voilerie est responsable de ses actes. Et c'est comme dans n'importe quelle entreprise. Chaque voilerie a son plan B, ses sauvegardes, ses personnes qui savent faire. Il y a toujours quelqu'un qui attend la place, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à prendre la place de l'autre, vous savez. Ouais, donc c'est partout, il y a toujours un plan B. Mais effectivement, je dis pas pour autant que c'est pas une situation qui pourrait être préoccupante.
Tu peux me citer un maître voilier qui t'a inspiré ou qui a un parcours qui a été très reconnu comme...
Oui, bien sûr. Oui, Bertrand Chéret.
Ah bah oui.
Bertrand Chéret. Sans hésiter. Parce que Bertrand Chéret, c'était vraiment quelqu'un qui avait toutes les facettes. Il avait d'abord la casquette de régatier. Il a fait les Jeux Olympiques. Ensuite, il savait faire des voiles. Et Bertrand Chéret, c'était un type qui était un fou de développement. Et Bertrand, il a toujours beaucoup consommé d'énergie pour essayer de comprendre comment ça se passe. Il faisait des études dans les années 70 déjà. Il était installé à La Rochelle et il faisait de la soufflerie, il faisait du calcul et il faisait vraiment du développement, Bertrand. Et je pense que toute ma génération, on a tous eu à un moment donné un intérêt pour Bertrand Chéret. Il y en a d'autres, hein. Je ne peux pas tous les citer, mais Bertrand Chéret, c'est une vraie figure, quoi. Oui, tout à fait. Oui.
Et historien à 16 heures. Un livre sur l'histoire de La Rochelle.
C'est une personne, moi je connais très bien Bertrand. Mais pour tout te dire, la personne qui m'a mis l'étincelle, il y en a deux. C'est des gens que personne ne connaît. Un s'appelle Jacques Hamel. Jacques Hamel, en 1968, moi j'avais 18 ans, il vendait des voiles Tasker. Il vendait des voiles Tasker. Et il est venu livrer des voiles sur un bateau sur lequel je régatais. Et j'ai compris qu'il y avait des gens qui gagnaient leur vie en fabriquant des voiles. J'avais pas bien compris ça avant. Et ça avait été un premier flash. Et en 74, quelques années après, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Patrick Urruti. J'étais à une Quarterton Cup, c'était un championnat du monde des Quarterturners en Suède, j'avais donc 19 ans. Et j'ai rencontré ce gars et il m'a raconté qu'il dessinait des voiles chez Oud à Nice. Il y avait une voilerie Oud, une voilerie américaine. Et quand j'ai réalisé qu'il y avait vraiment des gens dont c'était le métier de fabriquer des voiles, de dessiner des voiles, moi c'était vraiment ça que je voulais faire. Et j'ai mis le doigt là-dedans et très vite, je me suis rapproché de Delta Voile, qui était une voilerie qui venait de s'installer tout près de chez moi, près de Montpellier. Et à l'époque, voilà, j'ai intégré cette voilerie. Et puis après, l'histoire a fait que j'en suis devenu actionnaire et responsable. Voilà. C'est comme ça que c'est parti l'histoire. Mais
t'es né en quelle année ?
Moi, je suis né en 55. Je suis né en 55. En 74, j'avais 19 ans. J'ai fait mon premier championnat du monde de Quarterturner. En 60. J'ai dit 68 tout à l'heure. Oui. Je me suis trompé.
C'est pour ça que tu as dit un truc, parce que là, tu as 18 ans, 68.
Non, je me suis trompé. C'était pas 68. Aujourd'hui, j'avais 13 ans. Non, c'était 73.
D'accord.
73, j'avais 18 ans. Voilà. Et après, j'ai intégré Delta Voile en 78. C'était le 1er décembre 1978. Je suis rentré chez Delta Voile comme responsable de tout ce qui était technique. Voilà, et j'en suis jamais reparti. Mm-hmm. Après, la vie a fait que je me suis occupé d'autres choses et que j'ai préféré, pour que ça soit bien fait, trouver quelqu'un qui s'occupe du bureau d'études. C'est ce que j'ai fait avec Pierre-Laurent Garnéron. C'est un métier de passion, le dessin des voiles. Je pense que les gens qui dessinent des voiles dans toutes les voileries que je connaisse, en tout cas, c'est tous des gens qui aiment ce qu'ils font, quand, vraiment. C'est un métier de passion. Moi, j'ai passé 25 ans à dessiner les voiles. Et je me suis vraiment. J'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie. Mais si je devais vraiment en exprimer un, c'est que là, j'ai dû faire d'autres choses pour m'occuper de Delta Voile. Et que ça m'a un peu coupé du dessin des voiles. Ça, je le regrette un peu. Parce que c'était vraiment ma vie, ça.
De
ouais, à un moment donné, il faut diriger une boîte, il y a tellement de choses à faire qu'on peut pas être.
Et là, pour revenir au présent, tu pars faire la Transquadra. Mmh. C'est ta première Transquadra ?
Oui. C'est ma première Transquadra parce que c'est la première fois. Ça fait quand même 42 ans que je m'occupe de la voile et que je m'en occupe vraiment, donc j'ai pas beaucoup le temps de partir comme ça longtemps. J'ai fait quelques petites tentatives, puisque j'ai fait la solitaire du Figaro, j'ai fait la roue du Rhum, j'ai fait le transat de Jacques Vabre. Mais c'était compliqué pour moi. Et là, c'est la première fois que, avec l'organisation qui est mise en place chez Delta Voile, je vais pouvoir me libérer un peu de temps pour préparer cette course. Et que par conséquent, je vais la faire dans des conditions à peu près normales de préparation. Quoi. Voilà. C'est pour ça. Et puis que j'ai l'âge où il faut mieux le faire maintenant, parce que heureusement que j'ai mon mentor Jean-Marie Vidal qui va la faire.
78 ans.
Je dis pas son âge, moi. Mais,
non, moi je l'ai dit.
Mais je sais.
Non, parce que c'est bien. Enfin, c'est
incroyable.
Et puis c'est vrai que ça donne la pêche quelque part, ce que tu dis.
Tu vois dans quel état il est. Je veux dire.
Extraordinaire. Deuxième Transquadra.
Et je vais te dire une chose, que je te mets comme ça quand même pari, là. C'est que dans 3 ans, s'il peut y aller, il va retourner. Hein. Écoute, moi je peux te parler un petit peu de la philosophie et du règlement surtout. Et du règlement en Transquadra, de ce qui a changé en plus dans le règlement. Alors, d'abord il faut savoir que tu as un nombre de voiles, comment il est limité et comment il est imposé.
Vas-y, dis-moi.
D'accord, alors ce qui est imposé, c'est d'avoir une grand voile et une voile de cap.
Ça c'est nouveau, non ?
Oui. Après, ce qui est obligatoire, c'est un tourmentin. Après, ce qui est obligatoire, c'est ce que le phoque, on appelle le phoque. Le phoque des OSR, le phoque de brise, qui doit être un phoque qui fasse 0,135 i au carré, inférieur ou égal à 0,135 i au carré. Le tourmentin doit être inférieur ou égal à 0,05 i au carré.
Rappelle-moi, IJPI, c'est le...
I, globalement, I, c'est ancrage de l'été, plan de pont. C'est la hauteur du mât au-dessus du pont, c'est la hauteur du câblage de Génois au-dessus du pont. Donc, i au carré. Ça veut dire que globalement, tu fais un carré. I au carré, ça fait la surface de ce carré-là.
Ouais.
Qui aurait ce côté-là comme hauteur de mât et ce côté-là comme hauteur de mât. Mmh. D'accord ? Le tourmentin, c'est 5% de ce carré, et l'ORC, c'est 13,5% de ce carré.
D'accord.
Donc ça, c'est les voiles obligatoires. Obligatoires avec système obligatoire pour fixer sur l'été, au cas où l'été creux viendrait qu'à casser. Tu dois avoir des petits systèmes pour mettre ça, et sur le tourmentin, c'est obligatoire que ce soit poste. Voilà. À partir de là, maintenant, tu passes à ta gamme de voiles. D'accord ?
Donc ça, c'est la garde-voile obligatoire.
Voilà.
La garde-voile.
Tu ne peux pas partir avec moins que ça. Après, tu as le droit à des spi.
Nombre limité ?
Alors, le nombre de spi, le nombre de spi standard en IRC, c'est 3. En IRC, le standard, c'est 3. Ça veut dire que le certificat de jauge standard en IRC te donne droit à 3 spi. Si tu en as plus, tu payes plus cher. Si tu en as moins, tu bonifies. D'accord ?
Le handicap, pas en pratique.
Voilà. Et c'est de l'ordre à peu près, c'est pas tout à fait ça, mais c'est à peu près de l'ordre d'un millième par spi, tu vois, supplémentaire. Ou un millième de moins par spi, de moins que le nombre de 3. Sur la Transquadra, cette année, ils ont autorisé à ce que l'on ait un spi de plus que le nombre officiel. C'est-à-dire que si tu as ton certificat à 3 spi, si tu en mets 4, eh ben, tu n'as pas de rating supplémentaire. Le dernier spi n'est pas payant, si tu veux.
Mais qu'est-ce qui rentre dans la définition de spi ?
Alors, qu'est-ce qui rentre dans la définition de spi ? Un spi, c'est une voile dont la surface, dont la largeur à mi-hauteur est supérieure ou égale à 75% de la bordure. D'accord ?
D'accord.
C'est ça, un spi. Si tu es en dessous de ça, tu es un génois. Alors, maintenant, tu as donc le droit, globalement, à autant de spi que tu veux. Si tu veux partir avec 2 spi, tu te jauges avec un spi, et ton deuxième spi ne te coûtera rien. Moi, je sais que je vais partir avec 4 spi.
Tu économises du coup 2 millièmes.
Oui. Bon, en moyenne, pour être quand même pratique, la plupart des bateaux vont partir entre 3 et 4 spi. Jean-Marie va partir avec 3 spi, moi je vais partir avec 4. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui parte avec plus de 4 et moins de 3. Je pense pas. Mais globalement, la moyenne va se faire entre 3 et 4 spi.
Et quand tu prends 4 spi, tu as des spi pour différentes conditions et tu as aussi du spare. Ou c'est 4 spi tous différents?
Tu as des spi différents qui se superposent. Alors, je vais te faire par exemple la garde-robe si tu veux pour les spi.
Ouais, ouais.
Alors je vais te dire par exemple, moi sur mon bateau Eurovoile, je vais mettre 4 spi.
Ça, d'accord, c'est ton bateau à toi.
Voilà, Eurovoile, il s'appelle mon bateau. C'est un Sunfast 3003.
Ouais.
Alors,
4 spi.
Ouais. Alors, moi, je mets un grand spi, maxi, médium.
Maxi, médium, c'est-à-dire.
C'est-à-dire, il est au maximum de la surface du certificat.
Et
médium, ça veut dire que c'est un grammage. Globalement, c'est du 0,9. On appelle ça le 0,9. C'est-à-dire que c'est un spi qui est fait pour porter jusqu'à 25-26 nœuds. Quoi.
Médium. 0,9, c'est quoi? C'est des grammes ou...
Alors, le gramme, si tu veux, normalement, c'est 43 grammes l'once. Donc 0,9, ça fait 40 grammes à peu près. Enfin,
ah oui, c'est par rapport à une valeur référence?
Écoute, honnêtement, retiens pas ça. 0,9, ça fait 50 grammes. C'est plutôt ça.
Parce que tu dis 0,9 grammes ou tu dis 0,9?
Non, 0,9 once.
0,9 once.
C'est l'once. Mais en réalité, l'once, elle est à 43 grammes.
Mais dans le grammage courant, tu dis un grammage de 0,9, quoi.
Moi, les gens te parlent d'un grammage de 0,9, tout le monde sait ce que c'est. Mais en réalité, un spi en 0,9, il fait plutôt 50 grammes. Parce que si tu veux, l'once, elle fait 43 grammes. Mais quand on parle du 0,9, on parle du spi avant induction.
Et 50 grammes rapportés à quel
mètre carré?
Donc
moi j'ai un grand spi médium maxi. D'accord ? Après j'ai un grand spi lourd maxi. J'ai le même mais en tissu lourd.
Et donc ça fait quoi comme grammage ?
70 grammes. 1,5, 11, 70 grammes.
Donc celui-là tu portes jusqu'à quoi ? 30
Alors celui-là je le porte jusqu'à 30 nœuds. Et j'ai un riz dedans. D'accord ? Alors pourquoi j'ai celui-là ? J'ai celui-là pour le cas. D'abord, pour ne pas hésiter à mettre un spi lourd même quand le vent descend. Si tu veux, quand tu as un grand spi médium et que tu as un petit spi lourd, à chaque fois que tu as le petit spi lourd, tu te dis merde, j'ai pas assez de toile.
Ouais.
Et si tu mets le grand spi médium et que le vent il monte à 35 nœuds, tu risques de le péter. Donc quand tu sens que, quand tu sens donc, que le vent est
un lourd grand.
Voilà, parce que si le vent est menaçant, tu sais que tu as un spi costaud.
Ouais.
D'accord ? Alors pourquoi j'ai un riz dedans ? J'ai un riz dedans parce que après j'ai un spi lourd, un petit spi qui, qui va faire à peu près 85% de la surface maxi.
Donc ça devient un vrai spi lourd, enfin
ouais.
Un spi de,
voilà,
de
j'en ai un. Mais si jamais je casse ce spi de brise là, ça peut arriver que je le casse.
Ouais.
Eh bien, c'est pour ça que, que j'ai un riz dans mon spi maxi, pour pouvoir faire qu'il puisse faire aussi spi lourd. Tu comprends ?
Oui, d'accord. Donc tu as un truc, mais un vrai spi lourd qui fait que ça.
Voilà.
Et t'as, ok.
Voilà. Mais si je casse mon vrai spi lourd,
ouais.
Comment je fais ? Eh bien, je suis content d'avoir un riz dans mon spi maxi.
Parce donc que ça, c'est ton troisième spi, le spi lourd.
Oui.
Un spi lourd.
85% de la surface maxi.
85%. Voilà.
Et après, j'ai un spi plat qu'on appelle le A5.
D'accord.
Il y a une règle de jauge que les mecs ont un peu oubliée. C'est que. Je vais t'expliquer. Tu vas voir. Voilà un spi A3. C'est un grand spi. SF, c'est la bordure. SHW, Spinnaker Half White.
Ok.
Ok. Ça, ça doit être supérieur ou égal à 75% de la bordure.
Mmh.
Mais là où certains sont un peu endormis, c'est qu'après ils mettent un riz. Tu mets un riz comme ça. Quand tu as pris le riz,
ben ça monte.
Ça, tu t'aperçois que ça n'a pas beaucoup bougé en large, en longueur. Par contre, ça, ça a beaucoup bougé en largeur.
Ouais.
Ce qui veut dire que l'IRC dit bien que quand on a pris le riz, on doit garder la proportion des 75%. Et ça n'a pas beaucoup qui l'a. Donc toi, tu peux faire une petite note en disant attention.
Ouais, un spi arisable, il faut qu'il garde...
Il faut qu'il garde sa géométrie une fois arisé.
D'accord.
Et ça, j'ai soulevé ce problème il y a quelques semaines, là. Et ça va un petit peu...
Certains sont dit, oula, zut.
Ouais. Et du coup, ça met un petit coup de frein à tout ce qui est à spi arisable.
Ouais. Parce que c'est une contrainte dans le dessin. Mmh. Mais alors justement, c'était mon autre question. Les transporteurs te demandent des voiles. Est-ce que le dessin il est à chaque fois unique ou dans quelle mesure les dessins sont personnalisés ?
Alors, ce qui est toujours personnalisé sur un dessin, c'est ce qu'on appelle la triangulation. La triangulation, c'est, on va dire, ce qui fait le triangle gagnant chute bordure de la voile. Ça, c'est toujours personnalisé. Parce que le mec, il veut 5 cm de plus sur sa bordure, il veut un point d'écoute un peu plus haut, il veut un spi pour mettre sur le tangon, ou pour le mettre sur la delphinière, ou sur une petite delphinière, ou sur une grande delphinière. Donc si tu veux, le cadrage des dimensions d'une voile, c'est toujours personnalisé. Toujours, toujours, toujours. À chaque fois, on se repose la question. La forme de la voile, elle, tu crées ce qu'on appelle un moule. Le moule, si tu veux, c'est un ensemble de paramètres.
Ouais.
C'est un ensemble de paramètres qui définissent la forme de la voile. Tu vois ? Et au moment où tu choisis ton moule, tu mets ton moule sur ce qu'on appelle une triangulation.
D'accord.
Donc si tu veux...
Le moule, c'est un peu ta recette maison, quoi.
Le moule, c'est la forme de la voile. Plus plate, plus creuse, plus vrillée, plus ceci, plus cela. Effectivement, c'est ton savoir-faire. Le moule, si tu veux, c'est ce qui va considérer, si tu veux, la manière dont l'air va circuler sur la voile. Si tu veux,
c'est ton dessin,
il faut savoir, il faut que tu. Moi, je vais te donner une définition du métier de maître voilier. Le métier de maître voilier est celui de régleur de voile. Le régleur de voile et le maître voilier décident de la trajectoire de l'air. C'est quand tu règles tes voiles, qu'est-ce que tu fais quand tu règles tes voiles ? Tu décides de la trajectoire que va prendre l'air sur la surface de ta voile. Tu décides qu'il va avoir une trajectoire courbe. Tu décides qu'il va avoir une trajectoire tendu, tu décides qu'il va avoir une trajectoire vrillée, tu décides, tu vois, tu comprends ce que je veux dire ?
D'accord.
Quand tu es sur un bateau...
Selon que tu cherches de la puissance... Ou
selon, mais qu'est-ce qui va donner plus ou moins, ou quelle force va être générée par ta voile, c'est la trajectoire que tu vas lui faire suivre à travers l'heure. Trajectoire que tu matérialises d'ailleurs avec tes bandes de profil. La bande de profil, c'est le plan de la trajectoire. Quand tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais là en ce moment ? Tu dis, ben, je règle les voiles. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ouais, je règle la puissance, je mets du valeur. Mais qu'est-ce que tu fais ? Alors, il dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de décider par où va passer l'air. C'est ça que tu fais quand tu règles une voile ou quand tu dessines une voile, tu décides par où va passer l'air. Est-ce que l'air va s'échapper ? Est-ce qu'au contraire, on va le...
Tu vas surtout décider de comment sort l'air, parce qu'il entre toujours un peu de la même façon.
Pas forcément.
Non, c'est détend, par exemple.
Tu vas pouvoir lui mettre plus ou moins de creux sur le guindant, tu vois, c'est parce qu'il y a des trajectoires, si tu veux. Par exemple, il y a un truc qui est très intéressant dans l'aérodynamique des voiles, c'est le point de séparation. C'est-à-dire que tu, en fait... quand tu mets une forme comme ça dans de l'air, le vent arrive alors avec ce qu'on appelle de l'incidence, hein, que c'est ça, hein, l'incidence elle est là,
justement,
ouais. Tu vois, en fait tout le flux arrive comme ça, et en fait il y a un moment où l'air va passer d'un côté et de l'autre, et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas, ça va pas séparer ici, ça va séparer quelque part par là. En fait, si tu es à un endroit où l'air va faire ça, et là,
ça se sépare en avant du profil.
Un petit peu au vent même, oui.
Et un peu au vent.
Ouais. Tu vois ? Et je sentais quelque chose, tu vois. Ça, c'est des choses qu'on a faites quelques années à Southampton. Tu vois, point de séparation ? Merde. Là, le filet de fumée, il arrive là. Merde. Le filet de fumée, il arrive là. Et hop, il se sépare pour aller là, et il continue là. C'est incroyable, hein ? Ça, c'était une expérience formidable que j'avais vécue. On avait été faire de la soufflerie. Regarde l'air à la surface d'un spi. Ça tourne, et ça décroche. Et tu vois que ça ne suit pas. Il y a un moment où ça décroche, ça continue tout droit, ça prend pas la courbe.
Et plus tu arrives à l'accrocher longtemps, plus tu es puissant.
Bien sûr. Et ça, c'est moi sur la soufflerie. Regarde le vortex, l'extrémité, quand on te dit que ça tourne.
Ça, c'est turbulent. Ouais.
Point de séparation, regarde le vortex, c'est beau. Tu vois, ouais. C'est comme c'est beau. Ouais. C'est sympa, regarde le vortex. Tu vois partir là-bas ?
Et tu peux influer sur la position du point de séparation ?
Alors, selon la forme de la voile que tu vas donner, tu fais de la course ? Tu fais de la régate, toi ?
J'en ai fait il y a longtemps.
Bon, tu connais la position favorable sous le vent ? Quand tu vires sous le vent d'un bateau ? Et tu dis, quand tu viens virer sous le vent d'un bateau, tu dis, putain, tu d'un coup, je prends de l'ado.
Ah, il y a un moment où tu récupères l'ado de la
transaction. Ben, si tu veux,
ouais, je comprends.
À l'échelle, si tu veux, il y a la voilure de ton bateau qui est ici, le point de séparation est là, et là, si tu veux, ça fait ça, le vent. Parce que ça s'est séparé ici, et ça fait ça. Et en fait, l'air, il est ici, et là, il fait ça. Et si toi, tu viens te mettre ici, là, et ben, tu as l'ado. C'est pour ça que tu sors les mecs toujours quand tu es...
Ouais.
C'est pour ça que quand tu viens te coller dessous, toujours tu sors.
Ouais.
Pour ça. Tu lui donnes ton ado. Tu vois ?
Ouais.
Et tu sais, des fois, tu manques de cap, tu surbordes un peu ta grand voile. Pourquoi ? Et qu'est-ce qui se passe ? C'est au moment où l'air il arrive ici, il se sépare. Si, quand tu surbordes un peu, ça fait séparer comme ça et tu donnes de l'ado au ton foc. C'est une petite valeur, hein. c'est pas 10 degrés.
Ouais.
Mais même ça serait 1 degré, et ben, le mec dessous, il te met 1 degré de cap et hop, il sort.
Quand tu surbordes ta grand voile, ça influe sur ton point de séparation,
ça
le déplace un peu.
Ben oui,
par là.
Oui, parce que si tu veux, plus tu vas faire ça, plus l'air il va avoir besoin de tourner.
Ouais.
Tu vois, plus tu vas le mettre comme ça, plus l'air il va suivre le. L'air il est comme ça. Tu vois, il tourne avec la voile. Il tourne avec la voile. Tu vois là ? Hop ! Hop, t'as vu la forme là ? Tu vois bien que là, l'air il arrive comme ça. Tu vois, comme il est parti là-bas, tac. Tu vois là, comme ça, il va ça part. Ça c'est le vortex. J'avais fait ça parce qu'en fait, ce petit jeune là, lui c'est Charles Bertrand. C'est un mec qui était architecte naval. Et quand il a fait son mémoire à le Naval Institute de Southampton, il a eu le droit à 2 jours. Il avait fait un master de CFD. Il a eu le droit à 2 jours de soufflerie gratuite. Alors il m'a appelé, il m'a dit, allez, moi je fais la maquette. Lui, il a fait la maquette en polyester. Moi, j'ai fait les voiles. J'ai pris un billet d'avion, je suis allé là-bas. J'ai passé 2 jours avec lui. On a fait des tests sur des voiles. On a essayé des spies, on a essayé des Jenak, on a essayé des trucs. On avait fait tout un petit rapport, c'était vachement sympa.
Et toi, sans ça, t'as appris des choses sur
ça. Ça m'a appris certaines choses sur effectivement la manière dont les voiles fonctionnent. Ouais. Si tu veux, ça n'a pas la finesse qui te permet de faire. Tu vas pas te dire, je vais passer 2 Génois de Sunfa 3003, je serai le meilleur.
Ouais.
C'est pas ce point-là.
Et tu visualises des trucs que
tu sais. Tu visualises des choses que tu comprends. Ouais. Et puis on s'est aperçu, par exemple, de l'importance de choquer le spi, par exemple. Tu vois, on s'était aperçu que vraiment entre un spi qui portait et un spi vraiment choqué au maximum, putain, c'était incroyable parce que ça allait mieux le spi choqué, quoi. Tu vois, parce que là tu commences à fonctionner les souffleries. Soufflerie, si tu veux, tu as de l'air qui arrive. Et puis si tu veux, le bateau il est sur un bâti.
D'accord.
Tu vois là, il est sur un axe comme ça.
Ouais.
Et il est sur un axe comme ça. Et en fait, ça c'est que là il est sur une bascule qui mesure le couple comme ça et la coupe comme ça.
Okay.
Donc ça mesure ce qui va vers l'avant et ce qui va sur le côté. Et en fait, ce que tu cherches à travers le réglage, c'est le meilleur rapport lift draft. Draft c'est la gîte. Et donc tu vois.
Ah, donc les résultats devaient être passionnants.
Donc les résultats, c'est sous forme de tableau après, et où tu cherches. Et effectivement, à un moment, tu te parles par exemple au spi, tu t'aperçois que quand tu es bordé, tu as beaucoup de puissance qui part sur le côté et pas beaucoup vers l'avant. Et ça se comprend, hein. Tu le comprends, tu vois, t'es comme ça. Et dès que tu choques, hop, le bateau se redresse, et c'est ce qui se passe dans la réalité.
Tu règles le spi tout le temps, quoi.
Le spi doit toujours être choqué au maximum. Ah oui.
Bon, et alors là,
Alors on en revient donc à nos voiles. Donc là, on a fait nos 4 spi.
Ouais.
D'accord. Et donc, moi, je mets un espèce d'A5 qui va faire dans les 60 mètres carrés à peu près. Tu vas en faire 3003. Là, si tu veux donner un peu des surfaces, on va dire que les spi maxi font autour de 100 mètres carrés.
Ça, sur ton bateau.
Oui, mais c'est à peu près pareil.
Ouais.
C'est à peu près 100 mètres carrés. Pour donner des surfaces, ça donne des rapports après. 100 mètres carrés, le speed brise, il fait 80.
Bon, après, quand on est en pourcentage, c'est facile.
Oui.
Si on parle de 100 mètres carrés. Ok.
Et après, tu passes au génois. Alors, fait nouveau dans la Transquadra cette année, tu as ce que l'on appelle le génois Transquadra. Alors, qu'est-ce que c'est que le génois Transquadra?
C'est le génois belge, mais.
Ouais. Alors, le génois belge, il le faut aussi. Mais le génois Transquadra, c'est un génois dont la surface est égale à FL. FL, c'est la longueur de l'été. FL égale l'été de jauge. Que multiplie 0,85. Que multiplie J. Que multiplie 0,5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends FL, que multiplie, c'est l'été. J, c'est la base du triangle avant. Donc,
la moitié, donc c'est la surface.
Donc, c'est comme si tu mettais ici un carré, un rectangle.
C'est le triangle moins 15%, quoi.
Globalement, c'est le triangle moins 15%.
Ouais.
Voilà. Mais pas tout à fait, parce que la hauteur, c'est celle-là.
Alors, ça, pourquoi
c'est
ils pas... ont le besoin de poser cette contrainte?
Alors, ils ont posé le besoin de mettre cette contrainte pour une raison qui leur avait été suggérée, notamment, je faisais partie des gens qui ont suggéré ça. C'est que la jauge IRC est très sensible à la surface des génois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si tu te mets, toi, un génois, tu mets pas de génois, tu mets un tourmentin. On a tous les deux un JPK 10-10. Toi, tu mets un tourmentin, un grand voile, des spies. Moi, je mets un génois, une grand voile, des spies. On part de l'Orient tous les deux. Il y a du vent de nord-est, on met le spi. Moi, je suis tout le temps sous spi, toi, t'es tout le temps sous spi. T'arrives à Madère tout le temps sous spi. Toi, t'as jamais mis de génois. Moi, j'ai jamais mis de génois. Et tu vas mettre une tannée en temps compensé, tu vois. Tu comprends?
Ouais.
Deuxième étape, pareil.
Ouais.
Tu vas gagner parce que t'avais pas de génois. Donc, si tu veux, un peu con quand même.
Ouais.
Et à contrario, tu pars, il y a du sud-ouest. Moi, je mets le génois dans du petit temps. Je te colle 2 jours, quoi.
Ouais.
Donc, si tu veux, ça peut perdre.
C'était
un peu. Alors, on a dit à Miko, est-ce que tu peux pas limiter la surface basse des Génois. Ouais, ouais. Et il a choisi cette formule. Il aurait pu en choisir une autre, il aurait choisi celle-là. Voilà. Donc ça veut dire que, et fait nouveau dans la Transquadra, tu as le droit d'avoir, pour une raison que je vais te dire aussi, tu as le droit d'avoir deux Génois, deux certificats de jauge. Un certificat avec un grand Génois et un certificat avec un Génois plus petit, qui ne doit pas être inférieur au Génois Transquadra, évidemment.
D'accord.
D'accord. Mais
et tu vas choisir la semaine du départ.
Non. Ah non. Tu vas choisir deux mois avant ou deux ou trois mois avant. Faut regarder ça. Deux mois, je crois. Je peux te le dire. On peut regarder exactement la vie de course. Mais par contre, non. Mais tu peux te dire, je prends le grand Génois pour la première étape et je le plombe pour la deuxième étape. Alors ça, pourquoi? Pourquoi? Pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Si tu les mecs de l'Orient, ils ont peu de chance d'utiliser le Génois.
Ouais.
Les mecs de Méditerranée, au mois de juillet, ils ont toutes les chances d'utiliser le Génois. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que toi, tu as un JPK 10-10. Tu pars avec un petit Génois.
Pourquoi la deuxième étape à Armégalon?
Exactement. Donc ça veut dire que là, à la deuxième étape, les mecs vont débarquer les grands Génois. Ils auront tous le plus petit Génois qui sera égal à ça. Et ça lisse un peu le truc.
Tu remets les compteurs à zéro à Madère, en fait.
Voilà, c'était un peu l'idée. Parce que je pense, mais ça, c'est une opinion très personnelle. Ce que je vais te dire est une opinion très personnelle. Je pense que l'avenir de la Transquadra, c'est quand même la deuxième étape pour tout le monde. Plutôt qu'il y ait quatre. Actuellement, il y a quatre classements à la Transquadra. Il y a les solos, les doubles, les méditerranéens et les atlantiques. Alors que tu aurais deux courses de ralliement et tu aurais une grande course Madère Fort de France, tu n'aurais que deux classements, un solo, un double.
Ouais, tu feras la première étape en ralliement, quoi.
Oui, mais ça, c'est une opinion complètement personnelle qui n'engage personne, en tout cas qui n'engage que moi. Mais par contre, c'est un pas vers cette équité sur la deuxième étape, ce qu'ils ont fait là. Ouais. C'est pour ça que ça me fait dire qu'ils ont peut-être un peu ça dans le coin de la tête.
Bon,
tu as compris ou pas?
Oui.
Bon. Alors donc, ce Génois Transquadra, je vais te dire globalement, je pense que tous les bateaux vont l'avoir à bord.
De toute façon, si tu as un Génois, il doit faire cette surface.
Non. Non.
C'est une limite basse.
Non, c'est la limite basse de ta jauge.
D'accord.
Si tu as un Génois plus petit que ça.
Ça, cette formule, c'est une surface mini.
Voilà, jaugé. Le HSA. Edsel Cell Area. Donc pour certaines configurations de bateaux, notamment le JPK 10-10, tu t'aperçois que le FOC Transquadra, c'est le même surface que le FOC ORC. C'est-à-dire que la formule FL, machin, elle donne l'équivalent de 0,135 kg au carré. C'est une coïncidence. C'est pas le cas, par exemple, du Sunfast 3003.
Ouais.
Parce que le Sunfast 3003, il a un mât très reculé. Donc, il a un très grand J. Il a beaucoup de quêtes. Donc, il a un très grand FL. Donc, quand tu fais FL que multiplie 0,85 de J, multiplie 0,5, tu as une surface qui est plus grande que quand tu prends 0,135 I2.
D'accord.
C'est deux repères différents.
C'est plus avantageux pour le Sunfast?
Non, au contraire. Sa configuration t'oblige à avoir.
Ça t'oblige à castrer ton.
Ça t'oblige à avoir un grand FOC Transquadra. Ouais. Tu vas payer un rating pour un grand FOC que peut-être tu n'utiliseras pas. Pas très très différent, mais enfin quand même. Voilà. Donc voilà. Les voiles que tu embarques. C'est donc ton FOC Transquadra. Et après, question, est-ce que tu veux un FOC plus grand que ton FOC Transquadra pour la première étape? Oui, non, ben ça, chacun sa vie. Hein. Il y en a qui vont avoir des FOC plus grands, d'autres non.
D'accord.
T'as compris?
Mais si c'est un FOC plus grand, tu le payes?
Tu le payes pour la première étape. Ça peut être intéressant de payer cher un FOC pour la première étape en jauge. Mais parce qu'il y a du petit temps, et tu vois, par exemple, pour sortir de Méditerranée, c'est sûr qu'ils auront tous de FOC. Pour sortir de Manche, d'Atlantique, moi, par exemple, je pars de l'Orient, je ne me suis pas encore décidé.
Et bon, et alors sur la grand voile, il y a des questions
Alors sur la grand voile, les questions qui se posent, c'est. Non, il n'y a pas beaucoup.
Sur des bandes de riz sur...
Alors, en général, on met de riz. Je dirais qu'après, alors, au-delà de toutes ces considérations de surface et de forme, tu vas aussi avoir des considérations de tissu. Donc, globalement, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on achète une. Est-ce que quand on va faire une grand voile, est-ce qu'on va s'acheter une grand voile sophistiquée en membrane, ou au contraire une voile dans un tissu très simple, étant probablement entendu qu'on va partir avec beaucoup de portants, beaucoup de soleil, la voile va se cuire un peu au soleil, qu'on a besoin de mettre une membrane. Ça c'est un peu... Moi je mets une membrane, voilà. Moi je mets une membrane sur mon bateau. Mais est-ce que tout le monde va faire comme moi, je ne sais pas. Il y en a qui peuvent te dire, moi je vais mettre une voile en Dacron et pour faire du portant, on m'en fout quoi. C'est pas exclu qu'il y ait des réflexions de ce temps-là. Voilà. Je veux dire que dans la gamme des voiles de tissus de voile de grand voile, tu as des tissus plus ou moins sophistiqués et tu ne peux pas forcément te dire que tu as besoin d'un tissu plus sophistiqué sur ce genre de course.
Donc toi tu mets quoi? Tu dis une membrane
Moi je mets une membrane fine la plus légère possible.
C'est un mélange de
brillage. Moi c'est ça que je veux. Après on peut faire des membranes avec des taffetas, des choses un petit peu plus modérées, tu vois, un peu plus costaud.
Alors éclaire-moi sur le taffetas, c'est un terme que j'entends beaucoup.
Alors un taffetas, c'est un tissu léger que tu vas mettre, tu vois, regarde. Voilà un tissu. Film, gris au milieu. Voilà, un tissu.
Ah, là, il y a un taffetas.
Taffetas, gris au milieu.
Donc ça donne un peu de corps, un peu d'épaisseur.
Le taffetas, si tu veux, ça joue plusieurs rôles. Ça joue un premier rôle qui est en résistance au ragage. Tu as une barre de flèche, tu es souvent en voile, tu as une barre de flèche qui frotte là toute la nuit. Ça a mieux se passer là que là. Après, ça protège du soleil. Ça protège les fibres qui sont dessous du soleil, quand même, tu vois. Et troisième et dernier avantage du taffetas, c'est que le taffetas, il va amortir les chocs. C'est que quand la voile elle va claquer, par exemple, le taffetas, il va transmettre, il va commencer à forcer tout de suite. Et si tu veux, quand la voile elle va se claquer comme ça, comme c'est des fils très très fins, ils sont très très tendus tout de suite, et ils vont retenir la membrane avant qu'elle arrive en traction pure sur la fibre carbone ou Kevlar. Ça va jouer un peu un rôle d'amortisseur. Et donc, ça aura un effet bénéfique sur la longévité de la membrane. Généralement, on met des taffetas sur les grands voiles. Généralement. Des taffetas sur les voiles de brise. Et on n'en met pas sur les voiles de titan, génois 1, génois 2.
Ouais, ouais, voilà. Et quid des... Comment s'appelle déjà le matériau à silence qui est monolithique là?
Le défi.
Défi.
Alors le défi, c'est un produit à très très haute résistance, très léger, qui aurait tout son sens sur une voile de transquadra. Après, on ne peut pas dissocier la technologie du prix de ce qu'elle coûte, quoi. Alors, est-ce que pour faire du portant, tu as besoin d'avoir une voile aussi technique que ça? Je veux dire, si t'as de l'argent, mets du défi, bien sûr. Mais si t'en as pas trop, ne mets pas ton fric là.
En fait, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que toutes les qualités mécaniques d'un tissu pour une grand voile, c'est un intérieur prêt, quoi.
C'est-à-dire que la stabilité de forme d'une voile, la membrane, si tu veux, c'est incontestablement plus stable en forme que tout le reste.
Ouais.
Mais la stabilité de forme d'une voile, tu n'en as besoin qu'au prêt. Au ventail, elle n'a jamais été formée, ta voile. Puis même si elle se déforme, tu t'en fiches à la limite. Tu vois? Si elle se creuse, c'est pas bien grave. Alors que quand tu es au près, une voile qui se creuse, une voile que tu peux pas aplatir, tu auras vite de la traîner, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est sensible.
En même temps, tu reviens aussi à l'idée que la flotte méditerranée peut davantage avoir besoin d'une grand voile.
Si on part du principe qu'ils vont faire du prêt pour sortir, oui.
Ouais, tiens, j'ai une autre question qui n'a pas grand chose à voir. En composite pour les coques, etc., on quand se travaillait avec des fibres végétales. Dans les voiles, là, comme ça, c'est pas possible? C'est pas assez raide?
Alors, je ne sais pas te répondre. Je n'ai pas d'élément de réponse, mais je ne crois pas qu'il existe des fibres qui soient. Nous, chez Incidence Techno, on n'en utilise pas. Mais. Je peux quand même te dire une chose, c'est que si on en utilisait, une fois qu'elle serait encapsulée entre les deux films polyester, Au niveau recyclage, comment tu vas sortir les fibres là ? Le bilan écolo d'une voile, pas autant il est très favorable pendant toute la durée de la vie de la voile. C'est-à-dire que quand on navigue à la voile, évidemment, on n'est pas à la planète. Mais par contre, une fois que la voile est terminée, si tu ne la donnes pas à recycler à 27e bague,
ouais.
C'est pas ce que t'en fais, quoi.
C'est ni des, on ne peut pas ni la détruire, ni récupérer les matériaux.
Faut allonger, quoi, tu vois. C'est pas vraiment
ce qu'il y a. Et sur les spies A5, etc., en termes de matériaux, c'est toujours les mêmes...
C'est des nylons.
Ouais.
C'est des nylons et... Tu peux mettre du polyester, mais ça donne des voiles très sèches, tu vois, très raides et qui rebondissent beaucoup. Moi, je suis pas favorable parce que quand une voile en polyester claque dans du vent, c'est tellement brutal que ça peut endommager le mât et le gréement. Et quand tu pars tout seul ou quand tu pars en double, tu sais que tes voiles elles vont être beaucoup plus mal menées que quand tu lances. Tu vois, il y a une vraie réalité. Il y a une vraie réalité derrière la navigation en solitaire et en double que j'ai remarqué. Si tu veux, je pense qu'en équipage, on mène mieux les bateaux qu'en solitaire et en double. Par la porte ou par la fenêtre, les mecs qui te diront le contraire, c'est pas vrai, quoi. Il y a des mecs qui mènent très 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 bien leur bateau en solitaire et en double, mais quand c'est 6 sur un bateau, il y a forcément plus de temps à chacun pour régler le jet noir, régler la grand voile, enfin, ceci, tu vois. Moi, je me suis aperçu que j'ai fait beaucoup de courses en équipage en IRC et que quand j'ai été faire du double, je me servais des réglages que j'avais l'habitude de mettre en équipage. Mais quand je fais du double avec mon nouveau petit bateau, où j'ai fait pratiquement que du double, je m'aperçois que j'ai beaucoup moins les moyens d'aller régler mon bateau. Tu vois ? Et là, je vais me remettre à naviguer. Je suis content de repartir à naviguer parce que j'ai quelques mois devant moi là pour vraiment aller chercher des réglages. Et les réglages, je vais aller les chercher en équipage, en confrontation, si tu vois. Parce que tu vois, par exemple, la confrontation en double, encore une fois, il y a des gens qui naviguent très très bien. Mais en moyenne, t'es toujours au four et au moulin, t'as pas fini de régler. Donc, non seulement toi, t'es jamais forcément à fond, mais le mec à côté non plus. Du coup, ta référence est moins bonne, tu vois. Donc, je trouve que c'est intéressant d'aller naviguer en équipage avec un bateau pour le découvrir vraiment, tu vois. Même si tu as des notions d'équilibre, de poids, de rappel, ça qui change un peu aussi. Mais quand même, tout ce qui est réglage de voile, les petites marques qui vont bien et tout, moi je suis très content d'aller faire de l'équipage avec mon petit Sunfast parce que ça va me permettre de découvrir des choses que j'aurais pas le temps de découvrir en solitaire. Ouais. Et puis accessoirement, le format des courses en équipage, c'est souvent des petits parcours. Et sur les petits parcours, tu vois bien les écarts de vitesse des bateaux.
Très bien.
Ça te va tout ce qu'on a dit ou pas ?
Ouais, super.
Ici Radio Ponton.